Vivante Église. Vivante Église. Vivante Église, le magazine régional de la vie chrétienne. Une émission proposée par Emmanuel Pella.
Dans le flot de l'actualité, quand on a l'habitude de lire la presse régulièrement, il est difficile de hiérarchiser l'information et plus encore de discerner les voix qui donnent du sens à cette actualité. Celle du pape François en est une, pas toujours la plus tonitruante, ni avec le plus de points d'exclamation dans ses tweets, mais une voix qui cherche à voir le bien, à le dire et plus encore invite à le faire. Quelques exemples ce matin de cette voix discrète mais puissante à l'occasion de votre émission d'actualité de l'Église universelle, tant sur les vaccins que sur la place des femmes ou sur la crise écologique actuelle. L'actualité de l'Église universelle, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Autour du plateau, Lou Bémond de Senneville, envoyé spécial permanent du journal La Croix à Rome. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Et Xavier Darotte, qui est vice-recteur du sanctuaire de Lourdes. Vous êtes, vous, en duplex depuis nos studios à Lourdes. Bonjour.
Bonjour Emmanuel.
Voilà, sans la musique, ça sera mieux. Merci d'être fidèle à ce rendez-vous. J'ai oublié de préciser, Lou Bémond de Senneville, que vous êtes en direct depuis Rome, et ça allait presque de soi. Alors, de multiples actualités avec vous, Lou Bémond. On va commencer, évidemment, actualité oblige, par parler du ou de la Covid-19, puisque c'est comme ça qu'on dit maintenant, et des vaccins. Le 22 janvier dernier, Mgr Vincenzo Paglia, président de l'Académie pontificale pour la vie, et Mgr Renzo Pegoraro, son chancelier, ont constaté le trop grand antagonisme et la trop grande concurrence sur ce sujet des vaccins et le risque d'une grande injustice. Ce n'est pas la première fois que le Saint-Siège prend position. Le pape François, dès août dernier, avait alerté sur l'équité en matière de vaccins. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que le Vatican répète à l'envi, Lou Bémond ?
Oui, en fait, c'est vrai que depuis l'été, le pape François et donc à sa suite un certain nombre de responsables catholiques au Vatican s'inquiètent de la distribution du vaccin, et donc c'est-à-dire du fait que les seuls à avoir accès au vaccin soient les pays les plus riches et pas les pays pauvres. Donc il y a une inquiétude qui est très forte, effectivement, avec un discours du pape François dès le mois d'août sur ce sujet-là, alors qu'on était encore assez loin de la disponibilité des vaccins, hein, parce que les premiers ont été faits plutôt vers le mois de novembre, décembre, en fonction des pays, ou janvier. Mais donc il y a eu une prise de conscience assez rapide, et donc c'est un sujet sur lequel travaille ardemment le Vatican et sur lequel il plaide aussi dans un certain nombre d'institutions internationales.
Alors si on lit la suite de cette note, on peut lire aussi « La production industrielle du vaccin devrait devenir une opération de collaboration entre les États, les sociétés pharmaceutiques et d'autres organisations, de sorte qu'elle puisse être réalisée simultanément dans différentes parties du monde. » Il y aurait bien d'autres messages à propos des vaccins. Et le pape François, alors là ça date un tout petit peu, mais j'aimerais qu'on y revienne, à utiliser ce mot, à parler de négationnisme suicidaire quant à ceux qui ne voulaient pas se faire vacciner. Il ajoutait que je ne saurais m'expliquer ce négationnisme suicidaire, mais aujourd'hui il faut se faire vacciner. Je crois que d'un point de vue éthique, tout le monde doit se faire vacciner. Est-ce que vous pouvez mettre en perspective ces propos du pape François qui, peut-être en France, on est assez rétif au vaccin, peuvent surprendre ?
Oui, c'est des propos qui ont été tenus au cours d'un entretien avec une télévision italienne, où effectivement on l'interrogeait sur les anti-vax, pour le dire un peu rapidement, ou pour en tout cas ceux qui sont effectivement réticents à la vaccination, et lui vraiment est un convaincu de la nécessité de ce vaccin pour arrêter la pandémie. Donc c'est ça qu'il dit à travers cette expression un peu forte de négationnisme suicidaire. Vous savez que le pape François a l'habitude d'employer des expressions qui marquent dans tous les domaines, mais donc celui du Covid ou de la Covid n'y échappe pas. Il y a effectivement ce plaidoyer du pape depuis quelques semaines pour la vaccination pour vraiment dire que la vaccination est l'une des solutions pour ce tirer d'affaires et pour essayer de sortir de l'ornière dans laquelle nous sommes depuis maintenant un an.
Le pape François donc a lui-même été vacciné, tout comme Benoît XVI. Il y a un autre sujet dont on a parlé un petit peu en France, c'est la question de ces vaccins qui utilisent des cellules souches embryonnaires. C'est le cas, si je ne me trompe pas, donc d'un vaccin AstraZeneca et Janssen, qui, dans le processus à un moment donc, de fabrication de ce vaccin, utilisent donc, des cellules souches embryonnaires. Alors le Vatican a pris position sur ce sujet après que des évêques, notamment en Espagne et en Australie, s'en soient émus. Qu'a dit le Saint-Siège sur ce sujet, Loubet Mont-Saint-Ville?
C'est une note effectivement de la Congrégation pour la doctrine de la foi, donc la gardienne des dogmes, hein, si on peut dire, qui a été publiée il y a quelques semaines, et donc qui affirme que dans ce cas précis, et dans le cas où il n'y a pas d'autre moyen d'obtenir un remède pour un danger très grave et imminent, eh bien, on peut utiliser des vaccins produits de cette manière-là. C'est une question qui a été assez débattue, mais c'est une position qui avait déjà été prise il y a quelques années dans une note signée par Joseph Ratzinger, qui à l'époque était le préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, et qui affirmait également que des vaccins produits de manière illicite pour des maladies très graves, notamment touchant des enfants, pouvaient être utilisés s'il n'y avait pas d'autres moyens de lutter contre ces périls très très graves.
Autre actualité, on change un peu, on passe du coq à l'âne, mais pas tout à fait, hein, mais c'est hélas comme ça parfois l'actualité. Il y a eu le dimanche de la parole de Dieu, c'était le 24 janvier dernier, dimanche que le pape François n'a pas pu présider en raison d'une sciatique, si j'ai bien compris. Dites-nous un peu, quel est ce dimanche de la parole de Dieu, en tout cas vu de Rome, est-ce que vous pouvez nous faire entre guillemets un petit récapitulatif? Il existe depuis quand? Et puis le Saint-Siège le pousse, on va dire, largement à travers le monde?
Alors oui, effectivement, ce dimanche de la parole de Dieu a été institué par le pape François, si je ne me trompe pas, il y a 2 ans, mais j'ai une toute petite incertitude, je dois le confesser. En tout cas, il a été célébré le 24 janvier par Rino Fisichella, qui est l'un des cardinaux qui entoure le pape François. Et l'idée, c'est de pousser le peuple de Dieu à se réapproprier la parole de Dieu, à lire l'Évangile, à lire la Bible, de manière à pouvoir fréquenter la parole de Dieu de manière régulière, de manière quotidienne, ce qui est un point très très important pour le pape François, très présent dans son pontificat depuis qu'il est arrivé à Rome en 2013.
Alors on peut lire certains extraits donc du texte qui a été lu donc par Mgr Rino Fisichella et qui avait été écrit ici par le pape François. La parole est l'antidote à la peur de rester seul devant la vie. Celui qui fait l'expérience de la proximité de Dieu ne peut pas mettre à distance le prochain, ne peut pas s'éloigner dans l'indifférence. C'est la lettre d'amour écrite pour nous par celui qui nous connaît comme personne d'autre. Pouvait-on lire, ça sera à suivre donc puisque c'est chaque deuxième dimanche, troisième dimanche du mois de janvier. Dernier point que je voulais voir avec vous avant qu'on vous quitte, puisque votre temps est compté, il y a eu au Vatican un procès et une condamnation. On a condamné à un homme à 8 ans de prison qui s'appelle Angelo Calloia, qui est l'ancien président de l'Institut pour les œuvres de religion. Expliquez-nous ce procès.
Alors, l'Institut des œuvres pour les religions, c'est l'IOR qu'on appelle aussi la Banque du Vatican. Et effectivement, Angelo Calloia est l'homme qui a présidé cette banque pendant très longtemps, entre 1989 et 2009. Il se trouve qu'Angelo Calloia, avec 2 autres personnes, a été condamné le 21 janvier dernier, effectivement, à de la prison pour détournement de fonds, pour avoir détourné un certain pactole, 59 millions d'euros, dans une histoire de vente de propriétés appartenant au Vatican. Au-delà de cette condamnation, ce qui est intéressant, c'est que c'est la première fois que le tribunal du Vatican, qui est un tribunal de l'État du Vatican. C'est la première fois que le tribunal du Vatican prend une telle décision dans une affaire de détournement de fonds, dans une affaire de blanchiment d'argent. Et donc, il y a un certain nombre d'observateurs qui voient vraiment un tournant historique de la justice vaticane sous la pression notamment du pape François.
Il faut dire, donc il y a trois personnes, hein, qui ont été condamnées, donc Angelo Calogia, Gabriel Luizio, qui tous deux donc étaient impliqués dans cette affaire, l'ancien président et l'ancien avocat donc de la Banque du Vatican, et le troisième homme à comparaître devant le tribunal était donc le fils de Gabriel Luizio, qui lui-même a été condamné un petit peu moins à 5 ans et 2 mois de prison. Juste Loubet Mont-Senneville, pardon, d'y passer un petit peu de temps, mais on peut détourner, je pose la question avec naïveté, hein, mais on peut détourner, ai-je lu, au total 160 millions d'euros de la Banque du Vatican, comme ça?
Ah, on peut détourner de l'argent partout, y compris au Vatican. Dès qu'il y a de l'argent, on peut le détourner. Il se trouve que, en l'occurrence, pendant un certain nombre d'années, la Banque du Vatican a investi en passant par des intermédiaires qui sont assez nombreux, donc soit des investissements sur les marchés financiers, soit des investissements immobiliers, et donc qu'il y a un certain nombre d'intermédiaires qui se sont servis au passage. Et donc effectivement, ce sont des faits qui ont eu lieu au Vatican. Il y a un grand mouvement de réforme, hein, de la Banque du Vatican depuis 2014, voilà, qui a été déjà initié par Benoît XVI à la fin de son pontificat, qui rend les choses un peu plus compliquées pour ceux qui veulent détourner de l'argent, voilà, avec une réforme de la Banque du Vatican qui rend ce genre de fait a priori plus compliqué qu'il y a 20 ou 30 ans.
Alors, vous nous aviez parlé donc de l'autorité d'intelligence financière, l'AIF, donc qui est une autre, on va dire, qui supervise un peu les activités financières du Vatican, si j'ai bien compris. Et vous nous aviez parlé aussi de Moneyval, qui est donc cet aiguillon, en tout cas c'est comme ça qu'on pouvait le lire dans le journal La Croix. Moneyval, qui est donc un groupe d'experts qui vise on va dire, à voir si les pratiques sont éthiques des différents États en matière financière. Et vous aviez parlé d'une tournée d'inspection qui avait eu lieu en octobre dernier. Est-ce que Moneyval a rendu sa copie dans ce tour qui concernait le Vatican en matière de lutte anti-blanchiment?
Alors, pas encore. Il faut attendre encore quelques semaines que Moneyval rende son rapport. Effectivement, il est très attendu parce que c'est un peu la tournée d'inspection. Il y a une note qui va aller avec et qui voilà, sanctionne la manière dont le Vatican gère les affaires de blanchiment et attentive à la destination et à la provenance de ces fonds. Donc c'est un rapport qui est très attendu. J'en reparlais avec un haut responsable d'une institution vaticane hier, et effectivement, c'est quelque chose qui préoccupe beaucoup ici, parce que depuis quelques années, il y a quand même un certain nombre d'efforts qui ont été engagés sous la pression du pape François, mais aussi sous cette pression internationale qui est liée au fait que le Vatican, eh bien, a adopté l'euro, est entré dans un certain nombre d'institutions internationales, et donc elle s'est aussi soumise à un certain nombre de règles internationales en termes d'anti-blanchiment. Et donc c'est pour ça qu'elle a été inspectée par les experts de Moneyval, effectivement, au mois d'octobre.
En tout cas, on pouvait lire aussi, toujours dans le journal La Croix, ces mots donc, du préfet du secrétariat pour l'économie du Saint-Siège, le père jésuite Juan Antonio Guerrero: l'économie du Saint-Siège doit être une maison de verre. Merci beaucoup, Loubet Mont-Senneville, en direct donc, de Rome, d'avoir pris ce temps. On va faire une pause musicale et puis on va retrouver Xavier Darrot pour d'autres sujets, entre autres donc la publication récente du motu proprio Spiritus Domini, permettant donc l'accession au ministère permanent de lecteur et d'acolyte des femmes dans l'Église, et bien d'autres sujets, dont le prochain voyage du pape en Irak.
Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'actualité de l'Église universelle, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin. Elle était avec nous en ce début d'émission Lou Bémond de Senneville, envoyé spécial permanent du journal La Croix à Rome. Et est avec nous Xavier Darod, qui est donc prêtre, j'avais oublié de le préciser, pardon, et vice-recteur du sanctuaire de Lourdes. Pardon ?
C'est fondamental pour moi.
Et oui, pardon, je vous prie de m'excuser.
Non, je voudrais, si vous me permettez, Emmanuel, je voudrais juste revenir très brièvement sur cette affaire de Lior pour expliquer peut-être à nos auditeurs une différence essentielle qui existe en fait entre le Saint-Siège et le Vatican. Toutes ces affaires financières, évidemment, on a l'impression qu'elles entachent la vie même de l'Église. Il faut comprendre une chose, c'est que effectivement, elles sont portées, elles sont le fait de chrétiens qui sont engagés, qui ont été choisis effectivement par le Saint-Père. Mais elle s'instaure dans l'état de la cité du Vatican, qui est donc un territoire souverain qui est régi par une loi, une constitution, et donc qui a son régime juridique propre, sa loi pénale, ses tribunaux. Et souvent, en fait, ce que l'on a constaté, en tout cas, moi, durant ma présence à Rome pendant plus de 9 ans, c'est que, effectivement, la loi de l'État du Vatican était parfois inadaptée. Tout simplement, il y a un trou dans la raquette parce qu'on ne pensait pas à telle ou telle disposition. Ça semblait tellement incroyable ou tellement inimaginable qu'effectivement, ce n'était pas écrit. Et donc,
c'est-à-dire, vous pouvez préciser, parce que là, on parle de détournement de fonds à hauteur de millions d'euros. Du coup, le lien paraît pas forcément évident avec ce que vous dites.
Si, le lien est assez facile à faire, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas jusqu'à présent tous ces mécanismes de contrôle qui existent dans un État souverain, un État qui est bien organisé. Les moyens du Vatican, en l'occurrence, étaient insuffisants de contrôle, et très souvent aussi, on reposait sur la bienveillance des gens. Or, nous avons péché, clairement, non pas par malveillance, au départ, mais justement par insouciance. Et donc, nous n'avons pas pris au sérieux un certain nombre de ces problèmes-là, sur du trafic financier, sur du trafic de drogue, sur etc.
Voilà, précision donc importante s'il en est. Il faut rappeler que vos responsabilités à Rome, c'est que vous étiez donc à l'ambassade près au Saint-Siège. Vous étiez le conseiller ecclésiastique, c'est comme ça qu'on dit ?
Tout à fait.
Autre actualité donc, dont on a pas mal parlé, je voulais vous entendre dessus, c'est donc la publication de ce motu proprio donc par le pape François, c'était le 11 janvier dernier, intitulé Spiritus Domini, ce qui veut dire donc l'Esprit du Seigneur, dans lequel le pape a décidé d'ouvrir les ministères permanents de lecteurs et d'acolytes aux femmes, qui étaient jusqu'alors réservées exclusivement aux hommes. Alors il y a plein de questions évidemment autour de ça, mais si on commence par le début, lecteur et acolyte, pour ceux qui ne sauraient pas, qu'est-ce que c'est, Xavier Darod ?
Alors, le ministère du lectorat et de l'acolytat sont des ministères, c'était autrefois appelé les ordres mineurs. Et donc, il y avait dans l'église ancienne un certain nombre d'ordres mineurs qui étaient celui du portier, de l'exorciste, du lectorat, de l'acolyta, et qui étaient donc perçus comme des préparations, si vous voulez, à l'ordination, aux ordres majeurs, qui étaient alors le diaconat et le presbytérat et l'épiscopat. Et donc, c'était des ministères qui étaient donnés en vue du sacerdoce. C'est ainsi que, lors de la réforme voulue par le Concile Vatican II, ces ordres mineurs ont été détachés des ordres majeurs, mais ils sont encore, la tradition fait qu'ils sont encore donnés essentiellement pour les jeunes hommes qui se préparent au sacerdoce. Ce ministère du lectorat et de l'acolyta, c'est donc la mission qui est confiée par l'Église à tel ou tel de pouvoir lire la lecture, et donc c'est un engagement, c'est un ministère qui est donné à vie. Ministère du lectorat et de l'acolyta, c'est-à-dire de servir autour de l'autel. Donc il aide le prêtre dans la liturgie à distribuer la Sainte Communion comme ministre extraordinaire, et donc il peut par exemple aussi exposer le Saint-Sacrement. Ce sont des ministères qui étaient autrefois des ordres mineurs.
Alors ça, c'est pour la précision, on a lu, ou en tout cas on a entendu, et puis pour ceux qui n'auraient pas suivi l'actualité, ça paraîtra peut-être évident, que cette évolution était assez logique, parce qu'elle venait d'une certaine manière avaliser une situation qui existe dans une grande partie des paroisses, alors peut-être pas partout dans le monde, ça appellera peut-être une précision de votre part, mais je voulais vous interroger d'abord sur la place des femmes au Vatican. En parcourant un certain nombre d'articles, j'ai pu lire des choses là-dessus. J'ai lu qu'en 1967, le pape Paul VI a nommé Rosemary Goldie sous-secrétaire du Conseil pontifical pour les laïcs. C'était la première fois qu'une femme occupait un poste à responsabilité à Rome. Et que derrière, Jean-Paul II, Benoît XVI et particulièrement, semble-t-il, le pape François ont fait en sorte que des femmes participent au gouvernement de l'Église. Vous, quand vous étiez à Rome, vous avez constaté ce mouvement. Était-il important? Les papes rencontraient-ils de la résistance sur le sujet? Quelle était un peu la température?
Alors, je suis heureux que vous m'interrogiez là-dessus, parce que l'histoire des femmes au Vatican n'est pas un long fleuve tranquille, si vous me permettez cette expression. Tout simplement parce que, effectivement, Paul VI a voulu faire rentrer des femmes, et il l'a fait avec une sous-secrétaire d'un conseil pontifical, donc pour les laïcs. C'était, très honnêtement, le niveau minimum. Enfin, c'était le niveau maximum du niveau minimum. C'est-à-dire qu'on ne la nommait pas dans des fonctions de gouvernance majeure d'une congrégation. On ne la nommait qu'à un conseil pontifical. Et donc j'ai connu plusieurs femmes, effectivement, qui ont exercé au Vatican. Elles, je dois dire que celles que j'ai rencontrées étaient des femmes tout à fait remarquables. Parce que c'est pas évident non plus d'exercer dans un monde qui, de fait, est essentiellement masculin. Je reviendrai du coup sur un peu ce pape François, ce pontificat du pape François. Là, on se rend compte que justement, lui souhaite bousculer un peu les choses. Il a cet art de la formule. Je me souviens très bien de ce qu'il disait par exemple à Longélus, sur la place Saint-Pierre au Vatican, en octobre 2020, le 11 octobre. Il disait ceci: personne n'a été baptisé prêtre ou évêque, mais tous en tant que laïcs et laïques. Et donc, si vous voulez, nous ne sommes pas d'abord dans une église cléricale, nous sommes d'abord dans une église de baptisés. Et nous étions tous au même stade, dans la même espérance, si vous voulez, de laïcs. Et il a, le pape François, du coup, de ce fait, a toujours insisté sur le fait qu'il fallait plus de laïcs impliqués dans le fonctionnement même de l'Église. Et donc, il faut insister sur l'inclusion des femmes, a-t-il dit, parce qu'en général, les femmes sont mises de côté, reconnaît-il. Et donc, il a appelé à donner de la place à une présence féminine plus incisive, mais toujours sans tomber dans le cléricalisme. L'idée, ce n'est pas d'en faire une nouvelle classe, si vous voulez, de l'Église. Nous ne sommes pas en train de chercher un pouvoir. En revanche, que nous ayons la collaboration beaucoup plus étroite des femmes, ça me semble indispensable. D'autant plus que pour ma part, j'ai quand même 7 sœurs à la maison. Je ne vois pas comment je pourrais résister à leur charme.
Alors, on y reviendra. Je vous poserai ma question piège sur Lourdes, mais ce n'est pas forcément le premier sujet. On peut dire à propos du pape François aussi, donc il a nommé Francesca Di Giovanni. C'était en début janvier de l'année 2020, qui est sous-secrétaire à la section pour les relations du Saint-Siège avec les États, c'est-à-dire en gros numéro 3 de la puissante secrétaire d'État, donc ça n'est pas rien, et que le pape François avait nommé un peu plus tôt, donc en août 2020, 6 femmes laïques comme expertes au conseil en stratégie au conseil pour l'économie du Vatican. Parmi toutes les choses que j'ai lu donc cette citation qui fait suite au synode sur l'Amazonie, où on sait qu'il y avait eu, on va dire, des interrogations sur la possibilité, peut-être, en tout cas évoquée par certains évêques à l'occasion de ce synode, d'ordiner des hommes mariés. Il y avait cette phrase: pour toute l'Église, dans la variété des situations, il est urgent que les ministères soient promus et conférés aux hommes et aux femmes. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire du mouvement de fond sur le sujet, parce que ce qu'on y lit, c'est il est urgent que les ministères soient promus et conférés aux hommes et aux femmes. Est-ce à dire qu'il y a un point d'interrogation sur aussi le diaconat, voire la prêtrise?
Alors, je reformulerai les choses. En l'occurrence, ce qui est dit là est tout à fait essentiel. C'est-à-dire que l'on se rend compte, dans la situation présente de l'Église, que nous sommes appelés à avoir justement un élan missionnaire, à retrouver, si vous voulez, la fraîcheur de l'Évangile. Et donc, il y a un appel extrêmement fort du pape à aller vers les périphéries, à inventer de nouveaux ministères. Ne nous contentons pas, je crois que ce serait une erreur, de se centrer simplement sur la structure hiérarchique de l'Église. Elle est nécessaire, elle est apostolique, mais il y a une vitalité même de l'Esprit-Saint dans la vie même de l'Église. Nous le voyons quand j'étais curé de paroisse, et je l'ai été malheureusement trop peu de temps, mais ces années-là demeurent pour moi des années profondes de bonheur, où j'ai vu un foisonnement d'initiatives, de génie créatif de tel ou tel. Et les femmes y étaient tout particulièrement présentes. Ce que vous citez là, en l'occurrence, sur cet appel au ministère, c'est effectivement à ce que l'Église retrouve un dynamisme même de ses propres ministères. Lorsque je vais en Afrique et que je vois le dynamisme des catéchistes, lorsque je vais en Amérique latine et que je vois le dynamisme des communautés de base, je peux vous assurer que ce ministère dans l'Église est bien vivant. Il n'est probablement pas simplement hiérarchique, mais il y a une fécondité, une vitalité, et le pape François nous invite justement à retrouver cela.
On y reviendra sur ce sujet. Peut-être que les auditeurs vont être frustrés parce que on l'a pas abordé peut-être jusqu'au bout, au goût de certains. On peut dire qu'en tout cas la question de la place des femmes dans l'Église est une question aujourd'hui sur laquelle l'Église travaille, puisqu'il y a une commission qui a été reconduite récemment par le pape François sur ce sujet. Je voulais vous entendre sur la question écologique, puisque là aussi c'est un sujet qui est cher à Rome et au pape François. À l'occasion d'un récent sommet, Climate Adaptation Summit, c'était donc fin 2020, je vais y arriver, il y a eu donc une intervention du Saint-Siège, en l'occurrence c'était le secrétaire d'État du Saint-Siège, le cardinal Parolin, qui a pris la parole au nom du pape, rappelant entre autres combien c'était un sujet d'attention important pour le pape. Qu'est-ce que vous pouvez dire de ces messages à répétition? Le pape François, on va dire, est un fervent défenseur de l'accord pour le climat de Paris. C'est un des grands leaders sur le sujet.
Je crois que le Saint-Père s'est très clairement engagé là-dessus, puisque à travers son encyclique Laudato Si et le nombre de ses interventions sur le sujet, on voit bien que c'est quelque chose qui lui tient à cœur. Il n'est cependant pas prisonnier des structures et des accords. L'accord de Paris lui semble une avancée, lui semble une étape. Ce n'est pas en soi une finalité. Et donc, il rappelle toujours que la valeur même d'un accord ne tient que par la qualité de l'engagement de ses parties et notamment de leur volonté de faire avancer cette question écologique. Donc, il a conscience notamment que ça ne passe pas nécessairement par plus de régulation, plus de contraintes, mais par l'éducation même des générations à venir. Et là, l'Église a un rôle tout à fait majeur à travers notamment l'enseignement catholique et à travers cette prise de conscience à travers le monde. Donc je crois que le pape François apparaît de fait comme la conscience de ce monde. Et il a une parole prophétique. Vous savez, prophétique, c'est pas simplement dire ce que sera l'avenir. Souvent, les prophètes, ils interviennent pour dire, pour dénoncer ce qui se passe, qui est en train de se passer dans les moments de crise. Sa parole, je crois, est totalement prophétique en ce sens.
On pouvait lire d'ailleurs dans un article du journal La Croix, un ambassadeur, donc on imagine prêt au Saint-Siège peut-être, qui disait à titre privé que le pape François, d'une part, avec le concept de l'écologie intégrale, le lit, donc lit la question de l'écologie à la sauvegarde de l'environnement et la lutte contre la pauvreté, d'autre part, en parlant comme pape, il se sert d'arguments moraux que les autres ne peuvent pas soulever. Cela donne à sa parole une place à part. Et puis on peut dire que donc il y a ce prochain sommet, c'est la COP26, c'est à Glasgow en novembre prochain. Le pape François n'y va quand même pas de main morte aussi, hein, comme au sujet du vaccin, il a parfois des expressions fortes, il tense un peu les chrétiens qui auraient du mal à croire que le réchauffement climatique est dû aux émissions de CO2 ou qui auraient du mal à se mettre en route. Il est parfois un peu vert, Xavier Darode.
Il l'est, mais ça c'est la caractéristique même de ce pape. C'est ce qui nous le rend sympathique, du reste. Mais au-delà de son art de la formule, je puis vous assurer qu'il y a un travail tout à fait considérable qui est fait au niveau scientifique, d'information même du Saint-Siège. C'est quand même le pays qui a la plus ancienne académie des sciences au monde, et donc qui peut s'enorgueillir d'avoir dans ses rangs le maximum de prix Nobel et d'experts sur ces questions-là. Donc l'information dont bénéficie le pape est de première main. Et donc sa formule, son art de la formule permet de synthétiser ce qu'on lui présente dans de longues notes, mais c'est toujours argumenté.
Et puis, pour finir sur ce sujet, à propos donc des interventions du cardinal Parolin, on peut lire, entre autres, cette adresse enfin laissant entendre que une plus grande sensibilité générale à la question du changement climatique est perceptible depuis 2015, depuis l'accord de Paris, mais est contrebalancée par une croissance plus lente de la volonté politique. On va faire une deuxième pause et puis on va vous retrouver pour parler du prochain voyage du pape François en Irak, qui est encore en point d'interrogation, tant pour des raisons de sécurité sanitaire que de sécurité tout court, mais ça va être l'occasion de parler un petit peu de ce pays, vous y teniez, et des enjeux de ce voyage si important pour les habitants de l'Irak.
Thank you.
Radio Présence sur le plateau du Larzac, 106.5. Vivante Église, Emmanuel Pella.
L'actualité de l'Église universelle, c'est pour rappel le thème de l'émission Vivante Église de ce matin, avec autour du plateau Lou Bémond de Senneville, envoyé spécial permanent du journal La Croix à Rome, et Xavier Darotte, qui est prêtre et vice-recteur du sanctuaire de Lourdes, qui est avec nous en duplex depuis nos studios à Lourdes. L'Irak, donc, est le prochain voyage du pape François. Donc, pour ceux qui ne seraient pas au courant, le pape François va enfin sortir. Il dit lui-même que ce confinement lui pèse, comme à beaucoup. Et ce voyage, donc, est prévu pour le 5, 6 et 7 mars prochain. Il est encore en point d'interrogation. Avant qu'on parle du voyage, j'aimerais qu'on parle un tout petit peu de l'Irak. Je ne sais pas si parmi tous vos voyages, vous êtes allé en Irak, Xavier Darotte, qu'on présente un tout petit peu ce pays, parce qu'on en entend parler dans l'actualité, mais on ne le connaît pas forcément. Je vais donner juste peut-être quelques chiffres, moi, et puis je vous laisserai en faire une présentation plus large. C'est un pays donc d'à peu près 40 millions d'habitants, superficie 435 000 km², PIB 225 milliards, c'est donc, sauf erreur de ma part, 10 fois moins que la France. Il se classe au 50e parmi les pays. Et puis, évidemment, on sait que Saddam Hussein en a été, on va dire, le président, enfin le chef, et qu'après il y a eu cette invasion américaine. Mais j'ai lu aussi, alors ça peut-être qu'on le savait moins, que c'était un pays riche de son pétrole, qui a connu des années glorieuses dans les années 70, et puis derrière, il y a eu une succession, on va dire, d'événements qui amènent ce pays à être profondément divisé, soumis à bien des turbulences. Quelle présentation générale vous en feriez, Xavier Darotte ?
Alors, j'ai malheureusement jamais eu la chance d'aller dans ce pays, puisque lorsque j'ai voulu y aller, les menaces de guerre étaient déjà bien présentes. C'est un pays qui, néanmoins, m'a toujours fasciné et je crois fascine vraiment toute l'Église, tous ceux qui s'intéressent à la vie du monde, tout simplement parce que c'est le berceau de notre humanité. Il y a dans ces lieux-là, c'est la terre d'Abraham, Ur en Chaldée, c'est de là que justement se réfèrent toutes les religions juives, chrétiennes, islamiques. Nous avons là notre berceau, et donc c'est une terre de fait qui est riche d'histoire, par son patrimoine historique, mais qui est riche également de ressources naturelles, vous le mentionniez. C'est un pays qui a néanmoins beaucoup souffert de par son éclatement entre une partie chaldéenne, une partie assyrienne, une partie influencée par le Kurdistan, ce qu'on a appelé les Kurdes, une autre partie par l'influence de l'Iran. Et donc c'est en fait dans la tectonique même des plaques, c'est des plaques géopolitiques, c'est un des lieux extrêmement sensibles et marquants justement de ce Moyen-Orient. Donc la visite, si vous voulez, de ce pape qui va intervenir, on l'espère, au mois de mars. Alors évidemment, il y a des incertitudes sur la situation sanitaire, sur le risque sécuritaire, etc. Mais ça serait la première fois qu'un pape visiterait l'Irak, qui est vraiment cette terre d'origine du christianisme oriental. Donc c'est fondamental.
Alors on peut dire qu'à la manœuvre pour ce voyage, c'est donc le cardinal Louis Sacco qui est à la manœuvre, qui est le patriarche de l'Église catholique chaldéenne. Ce voyage donc est prévu donc le 5, 6 et 7 mars. Une partie du programme a été révélée. Le 5 mars, jour de son arrivée, le pape doit rencontrer le clergé de Bagdad dans la cathédrale de l'Église syrienne catholique. Le 6 mars, il devrait avoir un entretien avec l'ayatollah al-Sistani. Est-ce que vous pouvez présenter cette grande figure de l'islam chiite et mettre en perspective cette rencontre, on va dire, importante s'il en est ?
Bien sûr, toutes les étapes qui qui vont émailler ce voyage sont importantes. La première étape, c'est effectivement, comme il se doit, cette rencontre avec le président de la République irakienne, Brahim Salihi, et son premier ministre, hein, Mustafa al-Kazimi. On a là, je crois, c'est protocolaire, mais je pense que c'est important de comprendre aussi que nous avons là une reconnaissance du régime qui est en place, et c'est quand même une victoire politique après l'effondrement même de ce pays de pouvoir accueillir une figure d'autorité telle que le Saint-Père. C'est une confortation de l'État et des autorités civiles qui les ont invités. Alors évidemment, on aura là un discours sur une invitation à mettre fin à la guerre civile, à la corruption, promouvoir la réconciliation civile, mais c'est je crois quelque chose d'important à comprendre, parce que il y a derrière toutes des questions de reconnaissance de la citoyenneté même des chrétiens. On en parlera probablement après. L'une des autres étapes vraiment marquantes, effectivement, c'est la rencontre avec les communautés chrétiennes. On se rend bien compte qu'il y a eu un effondrement même de ces églises internes. Ce sont des églises qui ont été soumises à la persécution. Ce sont des églises qui elles-mêmes se sont effondrées parce que leurs communautés sont parties, et que pour un certain nombre, elles se trouvent simplement dans la volonté de survivre. Elles n'ont pas d'autre projet que de survivre. Donc je crois que là, l'intervention du pape sera déterminante pour essayer de les stimuler, de les encourager. Vous savez, ce pape est une façon de faire qui est à la fois paternelle, bienveillante, mais il est aussi capable de dénoncer les abus, de dénoncer ce qui ne fonctionne pas. Et je pense que nous aurons très certainement les deux aspects dans ce contact avec les membres du clergé dans la cathédrale syriaque.
Alors avant que vous parliez donc de l'ayatollah Ali al-Sistani, du coup je vais donner une ou deux précisions. C'est donc, on va dire, le chef de l'islam sunnite, si j'ai bien compris, qui réside donc dans la ville de Najaf. C'est un homme extrêmement écouté et respecté des Irakiens. On pouvait lire ça dans le journal La Croix, un sociologue franco-irakien qui disait « Les Irakiens ont intériorisé sa domination et ses fatwas, sont considérés comme des lignes rouges à ne jamais franchir ». Il ne reçoit pas toujours même les chefs d'État qui demandent à le rencontrer, et là, il recevra le pape François.
Oui, c'est vous avez raison d'insister sur cette rencontre. Elle est perçue par tous les interlocuteurs que j'ai pu avoir comme une démarche tout à fait historique. Elle s'inscrit dans cette rencontre d'un dialogue interreligieux. Ali al-Sistani, pardon, est vraiment cette plus haute autorité spirituelle pour les chiites irakiens. Ne pas le rencontrer eût été un faux pas, je dirais, diplomatique. Vous avez parlé des fatwas qu'il avait lancées. Je me souviens par exemple de celle qu'il avait lancée en 2014, qui avait appelé à la mobilisation de la population pour aller combattre contre Daesh. C'est lui, véritablement, parce que c'était l'interlocuteur à l'époque des responsables américains à Bagdad, qui allait très régulièrement le rencontrer. C'est lui qui, de fait, a permis cette mobilisation contre Daesh et qui a permis ce renouveau, cette libération de l'Irak, en particulier de Mossoul. Donc, que sera cet entretien? C'est un entretien qui est prévu de façon personnelle.
Privative, hein. Pour l'instant, hein, oui.
Tout à fait. Tout à fait. Il y aura certainement des photographies, il y aura certainement un bref échange, mais je pense qu'il faut qu'on comprenne bien qu'il s'agit d'abord d'une rencontre de croyants. C'est en tout cas la volonté expresse qui a été formulée de parler de cœur à cœur entre deux hommes qui porte cette responsabilité spirituelle.
Alors, si vous me permettez, je fais juste une précision. J'ai lu aussi que pour le Vatican, cet homme était considéré non seulement comme une figure respectée, mais comme un sage, et qu'un dialogue était possible avec lui.
Oui, tout à fait. Alors, c'est ce que m'a dit le père Amir Jagé, justement, qui est au Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. Il y a cette, il fait partie de ces personnalités du monde islamique qui peuvent justement entreprendre un dialogue spirituel et un dialogue également théologique et qui pourra certainement aider aussi dans une résolution politique de la situation des chrétiens et de leur place notamment dans la société irakienne où ils souffrent encore de ce qu'on appelle la dhimmitude, c'est-à-dire ils sont citoyens de deuxième catégorie ou de troisième, voire de troisième catégorie.
L'affiche de ce déplacement, de ce voyage, a priori donc qui doit être confirmée, c'est donc une colombe tenant une branche d'olivier volant au-dessus des drapeaux du Vatican et de l'Irak, avec cette phrase « Vous êtes tous frères ». C'est du Fratelli Tutti en action, Xavier Darod?
Oui et non. Je dirais, c'est quand même une parole prophétique que va annoncer vraiment notre Saint-Père. C'est ce que je disais tout à l'heure, un prophète n'est pas simplement dans l'annonce de ce qui va se passer, il est aussi dans la dénonciation des maux présents. Il est dans des paroles fortes qui peuvent dénoncer les problèmes internes, les décennies d'épreuves, la corruption, le vol des populations chrétiennes. Donc je ne suis pas sûr que ces propos soient toujours très bien accueillis. Et c'est là tout l'enjeu de la diplomatie vaticane, de pouvoir calibrer très précisément ses propos, de savoir jusqu'où le Saint-Père peut aller dans la dénonciation de la situation. Et ça sera effectivement comme un frère aîné qui vient consoler, qui vient rassurer, qui vient encourager, parce que très certainement, il tracera il donnera une parole d'espérance. Et donc, je ne pense pas que ce voyage dans l'immédiat puisse amener un changement significatif, mais très certainement, il sera l'amorce d'un processus. Et c'est tout le défi pour le Saint-Siège. Il est non seulement de réussir donc ce voyage sans susciter de polémiques dévastatrices, et on se rend bien compte combien dans le Moyen-Orient c'est compliqué, mais il est également par la suite de voir comment cela sera porté par les églises et par les institutions locales.
Allez, il nous reste 2 minutes, je vais vous poser ma question piège que je ne vous ai pas posée tout à l'heure. La place des femmes à Lourdes, Xavier Darod, dans le, on va dire, le gouvernement du sanctuaire, est-ce que les femmes ont leur part?
Alors, c'est une excellente question parce que c'est une volonté. Nous en avons parlé plusieurs fois avec Monseigneur Hérouard, l'évêque délégué du sanctuaire, et avec le recteur Olivier Rébadeau-Dumas, de promouvoir justement un certain nombre de femmes dans la structure de gouvernance du sanctuaire. Eh bien, la réponse ne se fait pas attendre puisque lundi dernier, par exemple, une nouvelle responsable du développement et des ressources et vient d'arriver justement sur un haut poste de responsabilité. Et c'est notre volonté d'ouvrir justement notre gouvernance du sanctuaire à cette réalité. Je regarde ceux et celles qui travaillent dans le sanctuaire. Les femmes ont un rôle essentiel de présence auprès des pèlerins. Donc non, c'est vraiment une volonté, je crois, nécessaire et attendue.
Eh ben, un grand merci à vous en tout cas d'avoir été fidèle au rendez-vous, et un grand merci à Lou Bémond de Senneville, envoyé spécial permanent du journal La Croix à Rome. Et rendez-vous est donné, vous est donné le mois prochain. Merci beaucoup. À la technique, Christophe Aubry. Vous pouvez écouter cette émission ce soir à 21h ou la retrouver en podcast sur notre site internet ou notre page Facebook, pardon. Quant à moi, je vous donne rendez-vous demain.
Cette émission est disponible sur CD. Commandez-la en téléphonant au 05 62 48 63 00. 05 62 48 63 00. ou par mail à contact@radioprésence.com.